Je vous propose d'inviter Thierry Kurt. Ah ben voilà. Merci, monsieur Kurt, de nous rejoindre. Vous êtes à la direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Et vous nous rejoignez pour qu'on puisse parler d'une manière plus globale, effectivement, de l'article 69 que vous avez évoqué, monsieur Das, il y a un instant, donc sur la loi de modernisation du système de santé. Nous a rejoint également Gilles Moulec, vice-président de l'ADESME. L'idée étant, dans cet échange, entre vous dans un premier temps, et puis avec vous ensuite, de nous, comment dirais-je, apporter vos analyses croisées, peut-être, sur les conséquences possibles de cet article 69. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole d'abord.
Pascal, juste une petite précision avant. J'aurais pu t'excuser Bernadette Laclé, qui, en fait, a été appelée en séance ce matin, hier après-midi, hein, sur un des textes de la loi de santé. Donc, c'est ce qui explique qu'elle ne puisse pas être parmi nous ce matin.
Bernadette Laclé, qui est rapporteur de l'article 69.
Voilà, donc je voulais l'excuser. Juste à signaler en deux secondes que tout est filmé. Donc, comme les années précédentes, sur le site de l'ADESME, vous aurez les podcasts. Et qu'on a l'ambition, on ne l'a pas assumé jusque-là, de faire des minutes de ces journées. Mais ça demandera un peu plus de temps. Et ensuite, assez rapidement, vous avez les podcasts et tous les supports de présentation quand il y a un support.
Donc, faites attention à ce que vous dites. Hein. Monsieur Kurt.
Si, alors le contexte de cette loi, en tout cas de l'article 69 de la loi, c'est une organisation qui est mise en place, hein, ça a été dit, il y a plus d'un demi-siècle, hein, à partir de 1960, fondée sur le secteur, avec cet objectif d'une prise en charge intégrée, hein, où la même équipe coordonne pour une population à la fois la prévention, les soins, le suivi en ambulatoire, l'hospitalisation, la réadaptation. Chaque aire géographique étant rattachée à un secteur. Alors, en moyenne, ce secteur dessert une population d'environ 70 000 habitants et il dépend d'un établissement hospitalier public ou privé avec la déclinaison, hein, sur la psychiatrie infanto-juvénile. Donc cette organisation présente des acquis essentiels, hein, notamment l'organisation d'une activité inscrite, hein, d'ores et déjà et depuis un certain nombre d'années dans une logique territoriale avec une responsabilité populationnelle, et également le développement des soins de proximité en ambulatoire qui était novateur à l'époque. Alors c'est vrai que ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui 80% des patients en psychiatrie sont pris en charge en ambulatoire, donc à l'heure du virage ambulatoire que Pierre Dehas a rappelé tout à l'heure, on a cette organisation d'activités sectorielles de proximité et qui est un atout, hein, la clé de voûte, hein, des évolutions à venir sur l'organisation de la psychiatrie. Alors ces évolutions sont nécessaires parce que les constats, les usagers, les familles le répètent, restent en partie insatisfaisants. Les indicateurs sont à améliorer. Les délais d'accès à une première consultation, un diagnostic, les taux de prévalence, hein, des taux de suicide, les taux d'insertion des personnes présentant un handicap psychique. De la même manière, on constate une hétérogénéité importante des pratiques, hein, dans les parcours de soins et de vie et dans les indicateurs des établissements de santé, en ce qui concerne, par exemple, les recours à l'hospitalisation, les prises en charge à temps partiel, la durée elle-même, hein, des hospitalisations, la suffisance ou l'insuffisance des démarches d'accompagnement et d'insertion. Également, les évolutions contextuelles sont à prendre en compte. L'élargissement de la demande, hein, des troubles mentaux fréquents, les troubles de comportement alimentaire, les addictions. L'élargissement des partenaires sanitaires, premier recours, psychiatrie, socio-médico-sociaux, la loi de 2005, diversifiée. L'émergence d'une offre non sectorisée, l'intervention, ça a été évoqué largement, du médecin traitant, qui a largement évolué au fil des années. Également les outils thérapeutiques et d'accompagnement, et qui ne peuvent pas aujourd'hui être tous disponibles en proximité sur le territoire du secteur. On peut penser à l'émergence des techniques de rétablissement, hein, comme la remédiation cognitive, qui favorise le maintien dans la vie sociale et qui est recherchée aujourd'hui. Ça fait tout à fait partie du virage ambulatoire préconisé par les pouvoirs publics. pour avancer, il y a une nécessité de positionner les responsabilités des différents acteurs qui sont très nombreux autour du patient et des familles. Et il s'agit de développer une approche globale et coordonnée de l'ensemble des acteurs en complémentarité. Alors, on a le premier recours, les acteurs de la psychiatrie, les usagers et les familles qui ont été très présents dans l'écriture des textes, ça a été dit tout à l'heure, mais aussi tous les autres acteurs du logement, de l'hébergement, de l'insertion, les collectivités locales, les départements, tous ces acteurs sont à coordonner et à mettre en action de manière complémentaire. Et c'est là le cœur de l'article 69 et des textes d'accompagnement. Mettre la politique de santé mentale au service du parcours de soins et de vie de qualité, c'est indiqué dans l'article L3221-2, sécurisé sans rupture. Là, on est sur les objectifs ambitieux, mais qu'il s'agit de rappeler, de marteler dans l'ensemble des textes. Réduire les inégalités d'accès également, identifier les insuffisances et préconiser les actions pour y remédier. Promouvoir l'accès en France à l'ensemble des techniques de soins et de prise en charge pour tous les patients sur tous les territoires. Garantir les acquis de la politique de secteur de proximité, notamment en termes d'accessibilité, de continuité des soins, mais en l'inscrivant dans le champ plus large du projet territorial de santé mentale. Enfin, promouvoir cette organisation partenariale, établissant clairement les responsabilités des différents acteurs. Alors, le cœur de l'article 69, et il a été évoqué, c'est le projet territorial de santé mentale. Alors, il est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et des établissements. Donc, on est dans une démarche ascendante. Le niveau territorial, c'est l'objet de la prochaine table ronde, il est indiqué par la loi comme étant un niveau territorial suffisant pour permettre, premièrement, l'association de l'ensemble des acteurs de la santé mentale et, deuxièmement, l'accès à des modalités et des techniques de prise en charge diversifiées et celles qui sont validées. Donc le territoire n'est pas prescrit par la loi puisqu'il est défini par les acteurs pour répondre aux objectifs compte tenu des caractéristiques des territoires géographiques, sociodémographiques, offres déjà existantes. Il associe les représentants des usagers et des familles, les professionnels, établissements de santé, les établissements et services sociaux, médico-sociaux, collectivités territoriales, conseils locaux de santé, CLSM, organismes locaux d'assurance maladie, etc. Donc on voit qu'on a là un ensemble d'acteurs qui doivent se coordonner. Alors, la coordination avec les ARS, évidemment, est essentielle, puisqu'à défaut d'initiative, et c'est rappelé par le texte, c'est l'ARS qui prend les mesures nécessaires pour que l'ensemble du territoire régional soit couvert, et également le DGARS arrête le diagnostic et le projet territorial de santé mentale. Alors, l'outil décrit par la loi, c'est le diagnostic territorial partagé. On va y revenir, établi par les acteurs de santé du territoire qui doit identifier les insuffisances dans l'ensemble de l'offre et préconiser des actions pour y remédier. Donc, le projet territorial organise cette coopération des acteurs et organise les conditions d'accès à la prévention, repérage, diagnostic, intervention, l'ensemble des modalités de techniques de soins et de prise en charge et d'accompagnement et d'insertion sociale. Alors, la loi renvoie à un décret, je vais y revenir, puisqu'elle indique que le projet territorial organise l'accès de la population à un ensemble de dispositifs et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire. Alors, les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale, donc qui est conclu entre les ARS et les différents partenaires du projet territorial et qui définit et contractualise les actions et les engagements de chacun. Alors, un point important qui était annoncé par la loi et qui a été concrétisé Et là, la loi a renvoyé un deuxième décret donc, qui vient d'être concrétisé par le décret du 26 octobre 2016. C'est que ce contrat territorial de santé mentale permet, sur la base d'une démarche volontaire des acteurs, la création d'une communauté psychiatrique de territoire hein, entre les établissements de santé autorisés en psychiatrie du service public hospitalier, donc signataire d'un même contrat territorial de santé mentale. Et la loi indique l'objet hein, pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement. Et donc les modalités ont été définies par ce décret donc, qui a été publié le 26 octobre, qui a fait l'objet d'une très large concertation avec l'ensemble des acteurs et les retours d'ailleurs reçus saluent un décret qui pour lesquels les acteurs expriment leur satisfaction quant à son contenu et à son ambition. Il y a dans ce décret la possibilité d'association des autres signataires du contrat territorial de santé mentale. C'est un point essentiel parce que cet élargissement au-delà de la loi, mais en conformité avec la loi, confère à la communauté psychiatrique de territoire dès lors que les acteurs s'en emparent, puisqu'on est sur une démarche volontaire, un rôle moteur dans la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale. Alors, l'esprit de la loi était que cette communauté psychiatrique de territoire pouvait être le vecteur de la prise en compte par les groupements hospitaliers de territoire des orientations du projet territorial de santé mentale. Et c'est indiqué dans l'article D6136-8, hein, lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire appartient à un GHT, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le GHT au volet psychiatrie santé mentale du projet médical partagé. Là encore, la coordination avec les ARS est essentielle, puisque la convention constitutive hein, qui est établie pour 5 ans est approuvée par le DGARS et la communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d'activité et d'orientation au DGARS. Enfin, le texte prévoit des communautés psychiatriques de territoire préfiguratrices, ce qui permet d'enclencher, et ça c'est un point qui a été réclamé par l'ensemble des acteurs, puisque les PRS sont en cours, il était nécessaire de pouvoir enclencher la dynamique territoriale sans attendre la signature du contrat territorial de santé mentale, pour être dans la marche des évolutions organisationnelles au niveau des régions. Alors, des points plus ponctuels, la mission de psychiatrie de secteur, j'en ai parlé, je vais y revenir très rapidement. L'article 69 la conforte, évidemment, en la positionnant et en la définissant sur le recours de proximité en soins psychiatriques, l'accessibilité géographique financière, la continuité des soins en lien avec les autres acteurs, le secteur participant à l'ensemble des actions menées en matière de prévention, soins, insertion, hein, dans le cadre du projet territorial. Donc le DGARS désigne les établissements de santé assurant cette mission et affecte à chacun une zone d'intervention et chaque établissement détermine dans son projet médical les modalités d'organisation dans cette zone, hein, qui décline en territoires de proximité, qui sont les secteurs. Alors, le groupement hospitalier de territoire, les liens avec la communauté psychiatrique de territoire sont organisés. Hein, je n'y reviens pas, je l'ai indiqué. Je ne vais pas revenir non plus sur le point qui a été évoqué par Pierre Dehaas hein, sur les diagnostics et projets territoriaux tiennent compte hein, des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et également hein, des autres dispositifs en appui des parcours tels que les plateformes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes hein, qui sont prévus par ailleurs par la loi. Alors les travaux en cours, je termine là-dessus. Les travaux en cours, un conseil national de santé mentale a été installé par la ministre le 10 octobre dernier, sous la présidence du sociologue Alain Ehrenberg, et avec l'appui de la DGOS, mais également de la DGS et de la DGCS, puisqu'on est sur une ambition santé mentale, hein, plus large que la psychiatrie. Alors, lors de cette séance, le rapport dit Lafourcade a été remis et a été publié. Il est désormais accessible et peut servir de référence, hein, aux actions dans les établissements et sur les territoires.
Il sera présenté par son auteur cet après-midi ici.
Parfait. Donc la nouvelle territorialisation, hein, de la politique de santé mentale, donc décrite dans l'article 69, a été identifiée comme une thématique prioritaire, hein, pour le Conseil national, et des travaux sont en cours dans le cadre de ce Conseil pour élaborer, hein, le décret prévu par la loi sur les thématiques prioritaires des projets territoriaux de santé mentale. Dans ce décret, hein, sur les thématiques prioritaires des PTSM, vont être décrits à la fois les objectifs attendus et les actions devant être mises en œuvre sur l'ensemble du territoire. Les premières thématiques évoquées concernent, par exemple, hein, les délais d'accès au diagnostic et de prise en charge, les accès aux soins somatiques, puisque je vois avec satisfaction que Claude Finkelstein a insisté sur ce point-là, donc c'est un point qui sera central probablement dans le décret en cours. Il évoquera également la gestion des situations d'urgence et de crise, l'accès à un ensemble de techniques et de prises en charge qui favorisent l'insertion et le maintien des personnes, ça encore c'est un point essentiel, dès la prévention. Et le soutien qui a été évoqué largement, hein, de la psychiatrie à l'ensemble des professionnels de premier recours, mais également professionnels médico-sociaux et sociaux, les aspects de déstigmatisation. Donc les ambitions de ce décret sont importantes. Au-delà, alors son calendrier d'abord, il est prévu dans un délai assez rapide, mais qui prendra en compte un nécessaire temps de très large concertation, comme pour le décret sur les communautés psychiatriques de territoire, auprès de l'ensemble des acteurs. Nous aurons cette phase de concertation, elle prendra le temps qu'il faudra, mais nous souhaitons quand même avoir un objectif volontariste, hein, de parution du texte, et on pense que les acteurs pourront adhérer aux axes qui y figureront. Alors, dans une deuxième étape, et nous y réfléchissons déjà, il faudra mettre en œuvre une démarche d'accompagnement, hein, pour que le décret puisse avoir une traduction concrète sur les territoires et sur l'ensemble des territoires. Probablement par la mise à disposition des établissements et des ARS d'outils de diagnostic. Nous travaillons avec l'ANAP à ces outils, également des supports qui devront être là pour préciser pour les différents territoires les modalités de mise en œuvre entre les acteurs, hein, également les dispositifs qui devront être présents sur chaque territoire et les indicateurs de suivi que l'on mettra en œuvre au niveau régional et national pour s'assurer que le décret sera suivi d'effet concrètement sur les territoires. Il y a également, et je voulais le citer, un comité de pilotage handicap psychique qui a été installé par le cabinet handicap, donc le 21 septembre dernier, et dans le cadre de la conférence interministérielle pour le handicap. Et ces réflexions du comité de pilotage ont l'ambition de nourrir les plans d'action qui seront préparés dans le cadre de cette conférence interministérielle. Alors, il y a quatre groupes de travail en ligne aujourd'hui. Hein, un sur la coordination des acteurs qui nous intéresse particulièrement, puisqu'on reparle là frontalement, hein, de cette articulation nécessaire entre le sanitaire, le social et le médico-social avec l'ensemble des acteurs. Le second groupe est sur l'inclusion sociale, l'accompagnement et la compensation du handicap. Le troisième sur l'évolution des représentations et des pratiques professionnelles. Le quatrième sur l'amélioration de l'état des connaissances, des besoins, l'accès aux soins et la prévention. Un troisième comité, vous allez dire, c'est beaucoup, mais ces comités travaillent en articulation et sont réellement nécessaires. C'est le comité de pilotage de la psychiatrie qui a été annoncé par la ministre pour traiter des questions spécifiques à ce champ. Et la ministre a confié la présidence de ce comité de pilotage de la psychiatrie au docteur Yvan Halimi. Et la composition précise de ce comité de pilotage psychiatrie est en cours d'élaboration et de validation, ainsi que les premières thématiques qui seront traitées de manière prioritaire dans les prochains mois. Mais nous visons d'ores et déjà une première réunion de ce comité de pilotage de la psychiatrie dès le mois de janvier, et si possible dans la première quinzaine du mois de janvier.
Merci Monsieur Kurt pour ce résumé dense malgré tout. Hein. Bien.
Les actions sont denses.
Voilà, elles sont nombreuses, elles sont diverses.